terme splendide quand il devient poète. Le tout, c'est pas seulement le repos translucide et simple du concept, c'est aussi l'ivresse bachique qui pénètre toutes les parties. C'est le délire, c'est l'ivresse bachique, le double, la double figure. Le repos translucide et simple et l'ivresse bachique. Alors, pour ceux qui, là je fais des raccords avec l'année dernière, je dis, cette image classique de la pensée, elle repose en effet fondamentalement sur l'idée du tout, et du tout comme ouvert. Vous voyez que l'ouverture du tout, c'est quoi là? L'ouverture du tout, c'est la permanence du mouvement par lequel le concept n'intériorise pas les images, sans s'extérioriser dans les images. Le cercle peut fermer, mais à l'infini, c'est un cercle infini. Et le dedans, c'est cette unité dialectique de l'intérieur et de l'extérieur. C'est cette unité dialectique de l'intériorisation et de l'extériorisation. C'est ça qui va définir la conscience de soi. C'est-à-dire le sens intérieur du concept. La conscience de soi, c'est pas la conscience que j'ai de moi-même, c'est le sens intérieur du concept. À savoir, le concept comme tout, qui n'intériorise pas les images du monde, sans s'extérioriser dans les images du monde. Signé Hegel. Ben c'est cette pensée, vous voyez, s'il y aurait tant de choses à dire en plus, mais c'est ce point de repère que je choisis pour essayer de faire comprendre ce renversement. Chez des penseurs comme Blanchot, comme Foucault, qui nous disent que la pensée vient du dehors. En d'autres termes, la pensée sera définie comme puissance du dehors, force du dehors. Et Foucault lâche cette formule comme répondant, et qu'il présente comme répondant à la fois à sa propre pensée et à celle de Blanchot. Quand le dehors se creuse et attire l'intériorité. Quand le dehors se creuse et attire l'intériorité. Il dit c'est ça la pensée. Ou du moins c'est ça notre pensée. Notre pensée, c'est quand le dehors se creuse et attire l'intériorité. Qu'est-ce qui se passe? On risque d'y passer dans le dehors. C'est terrible, là. Vous comprenez, là, ça va, ça, c'est bien, pas de problème. Comment? Je dis, j'essaie de numéroter, c'est le premier caractère. Dans cette troisième mutation que j'essaie de définir, c'est le premier caractère, la pensée du dehors. La pensée définie comme force du dehors. Quelque chose qui fait la pensée comme faisant irruption. Tout ça, c'est des thèmes qu'on connaît, je ne sais pas si vous avez... Mais à force de les connaître, à force d'y être déjà comme préfamiliarisé, encore une fois, on risque de ne plus leur donner de statut rigoureux. Et à ce moment-là, ça devient des rengaines, ça devient une rengaine moderne, à quoi. Car déjà, la première chose sur laquelle il faut s'intéresser, c'est que ce dehors, ce n'est évidemment pas l'extériorité. Car si c'était l'extériorité, on serait ramené. En d'autres termes, ce dehors n'a rien à voir avec l'extériorité du monde. Heureusement pour nous, bien plus. Pourquoi? Presque par définition, on en est. Là, on peut être sûr de nous. On peut être sûr de nous puisque nous avons vu que toute cette mutation de la pensée reposait sur et incluait perpétuellement à tous ces stades la rupture du schème sensorimoteur, à savoir la perte de rapport avec le monde. Je ne reviens pas là-dessus. C'est bien parce que nous avons perdu le lien avec le monde que la mutation s'est faite une première fois. Donnez-moi des raisons de croire à ce monde. Une seconde fois sous la forme, donnez-moi un corps. Troisièmement, une fois que le dehors se creuse et attire l'intériorité. Donc ce dehors, c'est pas du tout le monde extérieur, c'est pas du tout l'extériorité du monde. Au contraire, nous avons tout lieu de penser que ce dehors sera capable, peut-être, de nous redonner un lien avec le monde extérieur. Mais ce dehors ne peut surgir que sur fond d'une rupture avec le monde extérieur. Ce dehors ne peut surgir, il ne peut nous saisir, puisqu'il s'agit d'être saisi par le dehors, et il ne peut nous saisir que dans la mesure où nous avons perdu le rapport avec le monde extérieur. Alors voilà que, à mesure que nous avons perdu le rapport avec le monde extérieur, un dehors nous serait révélé capable de nous saisir. Et ce dehors qui nous serait révélé capable de nous saisir, ce serait cela, penser. Je ne prétends pas expliquer là aujourd'hui, je prétends numéroter les thèmes de Blanchot, numéroter les thèmes de Foucault. Et en effet, si on essaie, alors, d'une manière toute de pressentiment, de mettre quelque chose là-dessous, ce dehors qui nous saisit, à quel prix, à ce prix que nous ayons rompu avec le monde extérieur. Là, je reviens là-dessus parce que comprenez, ça va être notre future cohérence. Si ça s'arrange bien, mais peut-être que ça ne s'arrangera pas bien du tout, si ça s'arrange bien, j'insiste sur la nécessité de ne pas confondre le dehors avec le monde extérieur, puisque encore une fois, c'est peut-être de ce dehors, bien plus au dehors que le monde extérieur n'est un dehors. Par rapport à ce dehors, le monde extérieur n'est pas un dehors. C'est donc de ce dehors plus en dehors que le monde extérieur que peut nous venir une raison de renouer avec le monde extérieur. Et je dis, si on essaie de mettre quelque chose là-dessous, je remarque juste, là je fais des effets de filiation, d'auteurs qui ont eu des échos les uns sur les autres, que Blanchot a été très frappé par un psychiatre philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers. Je dis psychiatre-philosophe puisqu'il commence à paraître psychiatre et devint philosophe d'une grande importance. Et chez Jaspers apparaissait une étrange conception, pas de la schizophrénie, mais de certains cas de schizophrénie. Conception que vous trouverez dans un livre splendide qui s'appelle Strindberg et Van Gogh. Et comme par hasard, ou pas par hasard, vous trouverez une préface très belle à ce livre, préface de Blanchot. Et Blanchot s'intéresse énormément à une notion que Jaspers, en tant que psychiatre, avait essayé de dégager. La notion de processus. Il disait, voilà, il y a des schizophrénies où on a bien l'impression que les schémas classiques ne conviennent pas. Les schémas classiques, c'était quoi? C'était soit des schémas de réaction, soit des schémas de développement. À savoir, la folie comme réaction. À quelque chose d'extérieur, même si c'est de l'organique, ou la folie comme développement d'une personne, développement d'un dedans. Et Jaspers se dit, il y a bien des cas où on a le sentiment que ça n'est ni l'un ni l'autre. On dirait que le malade a été saisi par un processus. Vous voyez, la notion de processus, il la distinguait de la réaction à l'extérieur comme du développement de l'intérieur. Un processus. Un processus qui bouleverse à sa personnalité. C'est comme si le sujet avait une révélation qui va le briser. Lorsque je dis très vague, mais tant mieux, tant mieux. Une révélation qui va le briser, ça veut dire quoi? Là-dessus, sans doute, est-ce que Jaspers essayait d'éviter les contresens qu'il allait susciter. Il ne sera pas le dernier à essayer, et jamais on ne pourra éviter ces contresens qui feront déjà qu'on fera dire à Jaspers que la schizophrénie est la maladie la plus poétique du monde et que tout ça c'est formidable. Car Jaspers, dès le début, distinguait bien le processus qui saisit une personne et l'écroulement qui s'ensuit. Et l'écroulement lui paraissait absolument pathologique en tant que psychiatre qu'il était. Mais le processus lui paraissait d'une autre nature. Au-delà de la santé et de la maladie. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à Jaspers, et on ferait dire à un psychiatre très sérieux des propos tout à fait irresponsables du type. Les schizophrènes, c'est tout seul Berlin. Non, ce qu'il voulait dire, c'est que l'écroulement de personnalité, de toute manière, maladie pathologique. Le processus qu'il provoque est en dehors des catégories normales pathologiques. Oh. Si le processus s'empare, c'est déjà dans ces termes que parle Jaspers, et Blanchot les reprendra, s'empare d'une nature médiocre. L'écroulement de la personnalité est irrémédiablement pathologique. Après une période, et là Jaspers a beaucoup d'art en tant que psychiatre, il décrit cette période dans certaines schizophrénies, cette période de, à la fois d'effroi et de ravissement, et d'espèce de période créatrice au début du processus. Puis, tout se passe comme si... le type tenait pas le coup, bon, effondrement. À ce moment-là, oui, l'effondrement est absolument pathologique. Le processus, par-delà le normal et le pathologique, est-ce qu'il n'a pas toujours pour conséquence un effondrement de la personnalité, une brisure de la personnalité? Avec beaucoup de nuances. Pas de la même manière chez un schizophrène d'hôpital et chez Hölderlin. Comme dira Blanchot, évidemment, Hölderlin a une nature riche. il est poète par nature. Au moins une fois, ça se sera produit. Et pourtant, il y a aussi effondrement de personnalité incontestable chez Elderly. Il est difficile, ça a été tenté, c'est très intéressant, mais il est difficile de ne pas reconnaître en Elderlin un schizophrène. Bon. Il y a autre chose. D'une certaine manière, il tient le coup par rapport au processus. Bien. Cette idée de Jaspers, que Jaspers développe admirablement, parce que ça s'est trouvé quoi, ça, quelqu'un qui a la foi. Voyez comment ensuite ça a eu beaucoup d'importance, notamment pour l'antipsychiatrie. Il y a une dérivation directe de Jaspers à l'antipsychiatrie. Lorsque Ronald Lange lancera son thème de la schizophrénie comme voyage, lui aussi, il sera en proie au même contresens. Des lecteurs, où on l'accusera de faire une espèce d'apologie de la schizophrénie. Et pourtant, il avait la même prudence, Lange. Oui, la schizophrénie était un voyage. Seulement voilà, c'était un voyage qui incluait son propre naufrage. Le voyage n'était ni normal ni pathologique, il était au-delà. Il était d'une autre nature. C'était plus chez ces auteurs, c'est plus par-delà le bien et le mal, c'est par-delà le normal et le pathologique. C'est le processus. C'est ce que Lange appelait le voyage. Mais le naufrage, lui, ça, il est pathologique. Est-ce qu'on peut supporter le voyage? Est-ce qu'on peut supporter le processus sans effondrement de personnalité? Si oui, je vais vous dire, si oui, c'est parce que d'une certaine manière, l'effondrement de personnalité a dû se faire avant. Je crois. C'est ma réponse, le seul moyen. Ou bien il y aura effondrement de personnalité, ou bien l'effondrement de personnalité s'est fait à dose homéopathique et avant. Ça, je le dis, pour pas que vous mélangiez pas tout, ça, je le dis en mon propre... pardonnez-moi, c'est pas orgueil, c'est question que pour que vous mélangiez tout, pas tout, je le dis ça en mon propre... Je pense que la seule manière de supporter, si ces auteurs veulent dire vraiment quelque chose de réel par leur histoire de processus ou de voyage, seule manière de supporter le processus ou le voyage, c'est si... Et ça répond bien à tout ce qu'on fait depuis le début de l'année. Si la rupture du lien avec le monde et le corella, c'est-à-dire la dissolution de la personne, s'est fait avant. Et cet en fait avant s'est fait vraiment sous une forme homéopathique ou sous une forme vaccinatoire. Je veux dire, Beckett n'est pas fou. Beckett n'est pas schizophrène. D'une certaine manière, ma réponse serait pourquoi est-ce qu'il n'est pas schizophrène? Parce que la dissolution de la personnalité, il l'avait fait avant. À l'irlandaise, quoi. Presque, je dirais, à l'anglaise. Il l'avait fait à l'anglaise. À savoir... Depuis que les Anglais pensent, ils n'ont jamais compris ce que voulait dire moi. Jamais. C'est leur supériorité. La philosophie française et allemande, c'est le je, le moi, le sujet. Les Anglais, ils arrivent, ils disent. Ils ne pas mieux de comprendre, mais ils voudraient bien, mais non, ils ne voient pas ce qu'on dit. Alors, bon. Si vous avez pris vos précautions, si vous avez fait votre rupture, non pas avec le monde, mais avec votre lien du monde, votre dissolution de la personne avant, vous avez une petite chance. Sinon, en tout cas, à quelque prix que ce soit, le processus s'est au moins produit deux fois dans l'histoire de la poésie. À quelque prix que ce soit, c'est-à-dire effondrement de la personnalité de type schizophrénique et rupture avec le monde de type schizophrénique. Une fois avec Hölderlin, une autre fois avec Arthaud. Je dirais, vous voyez, lisez cette. C'est comme si. Voilà. Je vais vous raconter une histoire hein, pour qu'on se repose un peu. Il y a quelqu'un ici, moi, que j'aime beaucoup, avec qui, parce qu'il y a longtemps qu'on se connaît, et qui vient d'un pays lointain. Ne cherchez pas qui, vous ne trouverez pas. Alors, à tous les ans, elle vient d'un pays lointain, elle vient à Paris. Elle vient à Paris comme. Exactement comme moi, je vais au cinéma. Se dit, tiens, je vais me faire mon cinéma. Je vais à Paris. Et quand elle va à Paris, une partie de son temps, elle va écouter des philosophes. Parce que ça la met dans un état de satisfaction complète. Et elle prétend, mais je crois que c'est coquetterie, elle prétend ne rien comprendre. D'ailleurs, ça l'intéresse pas du tout. Mais je dis, je crois que c'est pas la seule. C'est pas la seule, c'est une manière d'écouter de la philosophie. On comprend pas les paroles, et tout. C'est même épatant, quoi. C'est comme, ouais, on connaît pas les paroles. Alors elle comprend pas les paroles, mais ça la met en état de joie. Ce qui l'intéresse, c'est, à la limite, je dis, c'est pour ça que je raconte cette histoire, c'est, elle écrit des romans, elle écrit du théâtre. Et moi, je trouve ça très beau. C'est pour ça que j'en parle et que je tire quelque chose de ces textes. Et bien qu'elle a fait une espèce de nouvelle où elle dit tout. Pourquoi qu'elle fait ce voyage à Paris, pourquoi elle va écouter des philosophes alors qu'elle ne comprend rien, toujours qu'elle dit, qu'est-ce qui la satisfait tellement? Elle dit, voilà, les philosophes, c'est des gens qui croient. Bien parce que ça tombe en plein dans ce qu'on fait cette année. Ils croient deux choses et ils se trompent sur les deux. Mais ces deux choses tellement bizarres, ils croient qu'il y a de quoi se réjouir. Les philosophes... Un philosophe, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, croit qu'il est déjà mort, ou qu'il est passé par la mort. Je trouve ça formidable parce que c'est une vision Edgar Poe de qu'est-ce qu'un philosophe. Ça me paraît un des plus beaux textes que j'ai lus sur qu'est-ce qu'un philosophe. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Quelqu'un qui croit comme ça, quelqu'un qui croit qu'il est mort, ou. Il est passé par la mort, qu'il est revenu des morts, ça revient au même, il est mort, il est passé par la mort, il est revenu des morts. Alors là, elle se marre. Elle dit, il se trompe. S'il était passé, il ne serait pas revenu d'abord. C'est dans sa tête, quoi. Il pense qu'il est passé par la mort. Première erreur. Mes premières croyances. Et puis, deuxième croyance qui s'enchaîne avec la première, il croit que mort ou passé par la mort, il continue quand même à vivre. Ce qui est une deuxième erreur, parce qu'il ne vit pas du tout. Évidemment, il y a à la fois une vision, il me semble, dans une telle idée, il y a une vision très profonde de qu'est-ce qu'un philosophe, et il y a une critique de la philosophie. Mais moi, je crois, alors je supprime la critique. Surtout qu'elle dit que c'est ça qui la ravit. Elle regarde, là, les types. C'est des zombies, quoi. C'est des zombies. Ils croient être morts et ils croient continuer à vivre étant morts. Ça va pas, leur tête, ça va pas. Mais pour elle, c'est ça qui fait le charme, comprenez? Alors, elle va à Paris voir les zombies de là-bas. Et elle dit même leurs gestes, leur manière de parler, tout ça, ça vient de chez les morts, tout ça. simplement, ils croient qu'ils vivent, d'accord, faut pas les troubler. Et elle en fait sa joie. Alors je dis, mais ce dont elle fait sa joie, c'est l'essence même de la philosophie. À savoir, en effet, le philosophe, c'est bien quelqu'un qui, d'une certaine manière, pense à tort ou à raison, sans aucune importance, pense à tort ou à raison, être revenu au monde. Et à tort ou à raison, il pense qu'il vit. Enfin, mais qu'il ne vit pas de n'importe quelle manière, puisqu'il est revenu des morts. Qu'il vit donc d'une manière très spéciale. Bon. En d'autres termes, il est entre deux morts. Une mort apparente et une mort réelle. Une mort par laquelle il est passé du dedans, et une mort qui l'attend du dehors. Vous me direz, la mort qui nous attend du dehors, c'est le cas pour tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas notre cas en général. Notre cas en général, c'est attendre la mort du monde extérieur et de l'organisme intérieur. Mais la mort qui nous attend du dehors, la mort qui nous vient du dedans, c'est autre chose. La mort qui nous vient du dedans, c'est la mort par laquelle on est passé. Fallait-il passer par la mort? On est passé par la mort? Un des textes les plus déterminants, les plus fondamentaux de toute la philosophie, c'est un texte de Platon, dans le Phédon. Sur le thème, si les morts naissent des vivants, à savoir, il faut avoir été vivant pour mourir, si les morts naissent des vivants, inversement, les vivants naissent des morts. Bon. Très beau texte, très très beau texte, qui est comme un des actes fondateurs de la philosophie. Le philosophe, peu importe s'il a raison, s'il n'a pas raison, estime être passé par la mort, en tant que philosophe, pas en tant que personne. Il estime revenir des morts. Il estime revenir du pays des morts. Et puis, il pense qu'il va vers une mort qu'il attend du dehors. Quand le dehors se creuse et attire l'intériorité, il est entre deux morts. Seulement, moi, je dirais que c'est pas qu'il continue à vivre et qu'il croit que, qu'il continue à vivre alors qu'il vit pas beaucoup. Mais je dirais qu'entre ces deux morts, entre la mort apparente et la mort à venir, le philosophe, il lance un éclair qui est un éclair de vie. C'est la vie comme un éclair. Et même si ça va pas vite, et que cet éclair de vie est quelque chose, c'est-à-dire, d'accord, c'est un zombie. Mais qu'il n'y a que le zombie pour chanter la vie. Je reviens des morts et je chante la vie. C'est ça la philosophie. Et c'est dans la mesure où je reviens des morts que je chante la vie. C'est ça. Bon. À quoi ça ferait penser? Pourquoi je parle de ça pour le matin? Vous devez sentir l'unité. C'est ça le processus. C'est ça la pensée du dehors. C'est le revenir des morts d'une certaine manière. Vous me direz, il n'y a pas que les philosophes, le revenir des morts, c'est pas ce qui nous arrive à tous, ce n'est pas notre aventure, celle dont nous sommes nés. Ben si, c'est pour ça que je parle d'une mutation de la pensée, que dès le début, j'ai dit que la guerre avait été un facteur fondamental dans cette mutation de la pensée. La guerre a été un facteur fondamental dans cette mutation de la pensée, non pas en tant que guerre simplement, mais sous sa double forme, sous la forme de sa double horreur. Camp d'extermination, bombe atomique. Camp d'extermination, bombe atomique, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça constitue? Qu'est-ce que ça définit? Ça définit les gens qui sont passés par la mort. Alors, je ne veux pas dire du tout que les philosophes, c'est ça. Je veux dire que ceux-là sont, qu'ils le veuillent ou non, bizarrement, c'est des philosophes. Ceux-là, ils nous reviennent vraiment des morts. Et un des auteurs les plus importants au moment du nouveau roman, Jean Cayrol, a écrit des textes célèbres. Il faudra aussi les voir, puisqu'on fait des groupements, sur ce qu'il appelait le héros moderne, défini comme lazaréen. Le héros lazaréen. Bon, qu'est-ce que c'est que le héros lazaréen? c'est celui qui revient des morts et qui a une vie intense, sans doute intense. Je dirais même pas qu'elle est marquée par la mort, mais elle a quelque chose à voir avec cette mort dont il revient. Et selon Kérol, qui est lui-même romancier, le nouveau roman était la mise en scène d'un héros fondamentalement lazaréen. D'où le nouveau roman était le roman de l'après-guerre. Et toujours cherchant à faire des espèces de court-circuits, s'il y a quelqu'un qui est le plus philosophe des cinéastes, c'est évidemment René. C'est René. Et c'est pas par hasard qu'à cet égard, par deux fois, Jean Kérol et René ont collaboré. Une fois pour Nuit et brouillard. Un film dont on ne peut même pas dire qu'il est sur les camps d'extermination, mais il a un rapport plus intime encore avec les camps. D'une part, et d'autre part pour Muriel, où Kérol était le scénariste. Or, quand je dis les personnages de René, c'est des philosophes, vous savez, pourtant c'est pas du tout un cinéma ennuyeux, mais la philosophie non plus, c'est pas... C'est des philosophes, ou du moins c'est en effet des personnages lazaréens. Ils sont entre deux morts, mais entre ces deux morts. La mort dont ils reviennent, et celle vers laquelle ils vont. La mort du dedans et la mort du dehors, mais d'une mort à l'autre. Il lance un éclat de vie, un éclair de vie, que René appellera le sentiment ou l'amour. Et si le dernier film de René est un des films les plus, à la fois qui me paraît un des plus ambitieux de toute l'histoire du cinéma, et un film qui récapitule toute son œuvre, à savoir l'amour à mort, c'est que là, la situation clé qui a inspiré, mais toute l'œuvre de René se trouve à l'état pur, à savoir l'homme qui revient des morts et qui va vers une mort du dehors, et entre les deux morts, qu'est-ce qu'il peut faire? Et la fatigue qu'il prend et qui prend son corps. Bon, et si vous considérez alors rétroactivement toute l'œuvre de René, vous y trouverez perpétuellement ce thème. Passer par la mort, la vie n'est vie que dans la mesure où elle revient des morts, où elle revient chez les morts. D'où la leçon fantastique de vie qu'il y a et qui se dégage de nuit et brouillard, qui est tout ce qu'on veut, sauf un documentaire sur les camps de concentration, qui est une œuvre tellement importante et tellement belle. Et je crois que c'est cela pour nous montrer que, même si nous n'étions pas nés au moment du nazisme, nous sommes à la lettre avant de naître, nous sommes passés par cette mort. Nous ne sommes pas restés, non, on n'y est pas resté. Beaucoup y sont restés, mais on est tous passés par cette mort qui a été une des composantes de ce qu'on appelle notre monde moderne, de ce monde avec lequel nous avons perdu le lien. Et dans des cas plus doux, cette mort par laquelle nous passons, dans des cas tout autres, ce ne sera pas celle des camps d'extermination, ce sera celle qui n'a rien à voir avec. Ce sera cette mort impliquée dans toute culture. Ce sera la mort qui constitue les strates et les étages de la Bibliothèque nationale. Et il faut passer par cette mort, par cette culture mortifiée, pour que la culture vive. Et là aussi, vous avez le même thème. Dans le film célèbre de René. toute la mémoire du monde. Toute la mémoire du monde. Et ensuite, dans ces films, que soit Muriel, que soit, si vous pensez à Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça me paraît un. Ou Providence, qui me paraissent parmi les deux plus beaux films, parmi les plus beaux films de René. Vous retrouverez perpétuellement ce thème de l'homme qui revient des morts. Il revient de la mort. Je pense même que c'est un problème, vous savez, là, c'est ce que je vous disais sur le problème et les gens, là. C'est un problème tellement important que René vit tellement que ben, je suis sûr que même personnellement, il en est marqué, qu'il se vit comme ça. Quoi. Je ne sais rien de la vie personnelle de René, mais je suis sûr qu'il se vit comme ayant quelque chose à faire, comme étant passé d'une certaine manière par la mort. On peut se vivre comme ça pour des raisons en apparence les plus futiles. Une expérience enfantine, un accident de voiture, je ne sais pas quoi. Bon, il y a processus lorsque vous ne serez plus jamais le même qu'avant. Bon. Et ben, quand je dis faites-le à dose homéopathique et avant, sinon vous serez brisé par le processus, je ne veux rien dire d'autre. Alors, tout ce que je voulais dans ce premier point, là, et en invoquant René, aussi bien que Jaspers tout à l'heure, voilà, c'est ça le processus. Le processus, c'est la force du dehors en tant qu'elle nous ramène à des morts, en tant qu'elle nous fait revenir des morts. Et je crois que ce que je dis là est conforme, sans doute, à la pensée de Blanchot. C'est pas facile comme pensée, c'est une pensée très complexe, et certainement à la pensée de Foucault. C'était mon premier point quant à ce thème, la pensée du dehors. Hein. Mais encore une fois, ça ne dit pas qu'est-ce que c'est encore une fois ce dehors. Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi qu'ils font du bruit là? Vous avez de la peine pour entrer? Il y a des problèmes dehors? Ah, c'est quelqu'un qui demandait si j'avais fait la pause. Ah, on va la faire, la pause. Pendant qu'il ferme la porte, dites-lui pas de pause. Hein. Voilà. Bon, si vous voulez une pause.
Non.
J'ajoute alors, oui, non. Pause tout à l'heure. Hein. Voilà. Si, on va en faire une. Mais je vais très vite là parce que le second point, il m'embête. C'est juste pour. Je dis second point. Vous voyez, je viens d'essayer de définir la pensée du dehors par le processus. Le processus tel que l'entend Jaspers, tel que l'entend Blanchot. La pensée comme puissance du dehors. Encore une fois, un dehors qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est ça qu'il faut. Je dis, il y a un deuxième caractère de cette pensée du dehors, dès lors. On pourrait presque en faire une démonstration, mais une démonstration. La pensée cesse d'être, donc, liée à ce sens intime, à cette forme d'intériorité du concept. Vous voyez, c'est tout à fait en rupture avec l'image classique. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle ne renvoie plus à un sujet pensant. Elle ne renvoie même plus à la limite à un objet pensé. Qu'est-ce que c'était? Le sujet pensant, c'était le concept comme tout. Alors, on l'a vu. C'était le concept comme tout en train de se différencier. C'est ça le sujet pensant. Il accompagnait tous les concepts. Pas difficile à montrer le sujet. Le concept comme tout, c'est le moi. C'est le moi de la philosophie allemande. Bien. Alors, bon, bah, la pensée du dehors, elle ne peut plus se présenter comme ça. On ne voit plus. À quoi on voit-elle? À première vue, vous allez me dire, ça va de plus en plus mal, cette pensée du dehors. À première vue, elle ne peut renvoyer qu'à une chose. Elle ne peut renvoyer que à quelque chose qui est en elle, mais qui se présente en elle comme le non-pensé, l'impensé, l'impensable. Et ce sera le second point sur lequel Blanchot insistera beaucoup et sur lequel Foucault, d'une toute autre manière, insiste dans Les mots et les choses quand il consacre tout un paragraphe, tout un sous-chapitre sous le titre « Le cogito et l'impensé » en expliquant que le cogito ne se rapporte plus à un sujet pensant, mais qu'il se rapporte à un impensé dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de dire un impensé extérieur à la pensée. Parce que des impensés extérieurs à la pensée, tout le monde le connaît, le corps, la matière, etc. Non, c'est au plus profond de la pensée que réside l'impensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la pensée est un processus, et le processus du dehors, la pensée est un rapport fondamental avec l'impensé. Vous direz, là je passe vite parce que ça a l'air d'être très verbal. Gardons-le comme, on verra. Heidegger nous disait quelque chose de très curieux dans toute la méditation sur ce que signifie penser. Vous vous rappelez ce qu'il nous disait? Il nous disait, que nous ayons la possibilité de penser, ce n'est pas la question. La possibilité de penser, on a vu, c'est tout ce qui fait pourtant la question de l'image classique de la pensée. Mais que nous ayons la possibilité, entendez la possibilité logique et la possibilité organico-psychique de penser, ce n'est pas notre affaire. Heidegger dit, cela ne signifie pas encore que nous en soyons capables, c'est-à-dire que nous soyons capables de penser. Bien, nous ne serons capables de penser que si quelque chose, dit-il, nous donne, ça c'est la première proposition, que nous ayons la possibilité de penser ne signifie pas encore que nous en soyons capables. C'est-à-dire, je traduis, la possibilité intérieure de penser. Deuxième proposition. Que nous en serons capables. Nous deviendrons capables de penser si quelque chose force la pensée ou nous donne à penser. D'une certaine manière, c'est la force du dehors. Ce qui donne à penser, c'est la force du dehors. Troisième proposition, dès lors, il faut que vous compreniez en quoi ça se conclut nécessairement. Il faudrait 10 minutes pour le montrer, il faudrait que vous le sentiez. Dès lors, ce qui donne le plus à penser, comme il dit dans son style, ce qui donne le plus à penser dans ce monde qui donne à penser, c'est que nous ne pensons pas encore. C'est forcé. Et c'est le début splendide du livre. Que signifie penser? Nous ne pensons pas encore. Ce qui donne à penser, c'est le fait que nous ne pensons pas encore. En d'autres termes, voilà, nous ne pensons pas encore, c'est ça l'impensé dans la pensée. La pensée est fondamentalement en rapport avec un impensé. Ou Blanchot, invoquant l'expérience ou le processus Artaud, dira, Blanchot étant comme la confluence de Artaud auquel il a consacré. Pardon, c'est pas une citation, je suis l'incapable de la pensée. Essayez de comprendre, c'est comme si on reniflait des phrases. C'est pas avec notre cerveau là, qu'on travaille en ce moment. Je suis l'incapable de la pensée, je veux dire, là je décalque sur ce qu'il disait de Van Gogh, le suicidé de la société. Van Gogh, c'est le suicidé de la société. Bon, au sens où Van Gogh est le suicidé de la société, Artaud, c'est l'incapable de la pensée. Mais l'incapable de la pensée, ça ne veut pas dire simplement qu'il est incapable de penser. Être incapable de penser, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'état pathologique. C'est le pathologique. Mais être l'incapable de la pensée, c'est autre chose. C'est le processus. La pensée comme pensée du dehors est fondamentalement en rapport avec quelque chose qui se dérobe à la pensée. Vous comprenez un peu? Foucault devait développer cela là, dans des textes splendides. Et en le tirant dans des directions tout à fait nouvelles et originales. Et c'est là qu'on voit bien qu'un livre comme Les mots et les choses n'est pas simplement un livre d'histoire de la pensée, mais est un très grand livre de philosophie. Car quel est le thème de Foucault dans Les mots et les choses, si j'essaie de le résumer, juste toujours pour mettre en place des pièces de notre programme? Consiste à essayer de définir le monde classique du savoir. Et le monde classique du savoir, il le définit par trois pôles, c'est ce qu'il appellera le trièdre du savoir classique. La richesse et l'échange des richesses. Le discours et l'organisation du discours, l'organisme et la mise en série des organismes ou la mise en classe des organismes. Et cela forme le grand monde de la représentation classique, le monde de la connaissance et du savoir. Et selon lui, quand est-ce que se fait une mutation? Une mutation se produit, je reprends à partir de l'autre texte, quand le dehors se creuse et attire l'intériorité. Qu'est-ce que c'est quand le dehors se creuse et attire l'intériorité? Quand le dehors se creuse et attire l'intériorité, c'est quand l'organisme laisse voir sous lui, hors de lui, quelque chose de plus profond qu'on appellera la vie. Et c'est, selon Foucault, c'est Cuvier. D'où l'aspect histoire du livre, pour le livre Les mots et les choses. C'est Cuvier. Deuxième point, c'est lorsque les richesses et l'échange de richesses laissera voir quelque chose de plus profond et quelque chose qui est en dehors et qui là aussi va définir un dehors du monde. Et qui sera quoi cette fois-ci? Ce sera le travail. La force de travail telle que la découvre Ricardo. Et enfin, quand le cadre du discours craque pour laisser entrevoir hors de lui, à travers lui, quelque chose de plus profond, qui sera identifié comme étant non plus l'ordre du discours, mais comme étant le langage et la puissance du langage. Cette fois-ci, c'est Pope, le fondateur de la linguistique, B-O-2-P. Et dès lors, Cuvier, Ricardo, Pope paraissent, mais il aurait pu donner d'autres noms, paraissent à Foucault les trois pôles de cette mutation, de ce renversement qui fait quoi, qui peut s'exprimer comment. Alors, ça paraît être de l'histoire, ce qu'il fait. Histoire de la pensée, rien du tout. Évidemment pas. Si, c'est ça, mais il y a autre chose. Ce qui l'intéresse, c'est tout court ce que signifie penser. À savoir, comment se fait-il que penser aujourd'hui soit la force du dehors qui met la pensée dans un rapport fondamental avec l'impensé, avec quelque chose d'impensé. Et cette impensée radicale au cœur de la pensée aura comme trois figures qui seront les figures du dehors, selon Foucault. Le travail, le langage, la vie. La pensée affronte en elle-même, c'est-à-dire non pas hors d'elle-même comme une science positive, bien sûr, ça donnera un jeu de science positive affrontant l'objet du dehors, objet langage, biologie, ce sera l'économie politique affronte l'objet travail. La biologie, mot qui en effet n'apparaît qu'à partir de Cuvier, la biologie affronte l'objet vie. La linguistique affronte l'objet langage sur les décombres du monde classique. Mais en même temps que des sciences positives se consacrent à ces trois figures, il y a quelque chose de plus profond qui, de l'avis de Foucault, rend possible les sciences positives et des parents du passé par elles, à savoir que la pensée comme force du dehors, que la pensée comme processus soit entrée en rapport avec trois figures de l'impensé. Que sont la vie, le langage. Le travail ou la production. Voilà, donc, il ne s'agit même plus de dire, bon, la pensée, et voyez, cette impensée dans la pensée, d'une certaine manière, c'est le fameux, le fait que nous ne pensons pas encore, la pensée comme force du dehors, c'est ce qui reste à venir, dira aussi Heidegger. C'est ce qui reste à venir, pourquoi? C'est pas parce qu'elle manque de présent. C'est parce qu'elle ne cesse présentement, dans un éternel présent, de mettre la pensée en rapport avec un impensé fondamental. Donc la pensée, elle est éternellement à venir en ce sens. Et si elle s'exerce maintenant, c'est encore comme pensée à venir. Bon, peu importe tout ça, c'est des thèmes que vous connaissez. Tout ce qu'il fallait, c'était comme montrer la cohérence du premier aspect, le thème général du dehors, et du deuxième aspect, la pensée est en rapport fondamental avec l'impensée. En découle un troisième aspect, toujours dans cette même mutation, la pensée du dehors, à savoir la montée à la surface de ce qu'on pourrait appeler les interstices, les interruptions, les intervalles. C'est ça qui va compter maintenant, l'interstice, l'interruption, l'intervalle. C'est ça qui va compter, pourquoi? Bon, quelle importance que ce soit ça qui compte. Ouh là là, mais ça va. Une récréation, une pause, on fait une pause? Non? Hein? Oui, bon. Qui pour vous est chargé, je sens, de signification. Pour moi, l'idée de conquérant, elle ne me dit rien, sentimentalement, ça ne me dit rien. Mais c'est très bien que ça, à vous, ça dise quelque chose, il en faut. Donc, moi, ça me va. Hein, ça me va. Si vous me dites, est-ce que c'est ça que vous avez dit? Non. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Non. Est-ce que c'est proche? Oui. Quoi de mieux? Parfait.
Moi aussi, j'ai quelque chose à remarquer. Au propos de processus,
Oui.
il me semble quelquefois que ce processus, une fois se manifeste, laisse en même temps des traces de nuances et d'effondrement.
Oui.
Et alors, toi, tu disais que le pari ou le futur de l'individu consiste justement à maintenir le processus et échapper à cet effondrement.
Oui. Ce
Alors,
qui revient à dire que je n'ai jamais considéré la folie comme autre chose qu'une immense misère et un immense malheur.
ouais. Alors, si tu veux, je m'interroge justement sur ce paradoxe et sur cette force qui donne à la fois à l'individu une grande possibilité d'être fidèle à l'égard à ce processus, mais qui lui donne en même temps une envie, une tentation, un désir encore ambigu et obscur, pas seulement de se jeter dans les misères, mais de se donner l'illusion de faire changer quelque chose dans l'ordre physique du monde et même corporel. Je m'exprime mal.
Si, tu t'exprimes très bien. Je ne suis pas sûr que ce qu'on a appelé la processus, après Jaspers, donne à l'individu qui en est la proie, lui donne le désir de changer. Je crois qu'il lui donne plutôt, alors ce qu'on appelait les autres années, une voyance, c'est-à-dire qu'il sait voir la vie. Oui. Il voit la vie. De là d'où il est revenu, il voit maintenant la vie. Alors, moi je crois que ce type de voyance, qui n'a rien de mystique, est une condition fondamentale en effet de l'action. Ça, oui. Si on n'agit pas pour et en fonction de la vie, il vaut mieux ne pas agir, parce qu'à ce moment-là, je crois que. Oui, enfin, peu importe. Oui, mais ça, je
Donc,
serais d'accord.
tu crées en fait
Alors, si tu dis il y
le
a un
moment,
paradoxe, il y a un paradoxe, ah oui, il y a un paradoxe. Ça, c'est fondamentalement une pensée du paradoxe. À mon avis, celui qui va le plus loin jusqu'à maintenant, c'est ce livre de Jaspers. Ce livre déjà ancien de Jaspers, qui est une splendeur, sur Strindberg et Van Gogh. Seulement, voilà, il ne suffit pas du processus non plus pour être Van Gogh. Ça, c'est évident. Là, à ce moment-là, on touche, enfin, à la fois un ensemble de mystères et de lieux communs. Il n'y a pas lieu de reposer les questions sur les rapports folie, génie, œuvre d'art, etc. Questions qui sont mal posées. Je préférais plutôt que l'idée même de processus nous apporte une petite lueur dans un tel nid de questions.